poudre vanille,
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann pour Deux Boules Vanille, quatrième et dernière des émissions que je vous propose cet été sur Canal B, tout avec la même architecture ou presque. On retrouvera dans un instant Zoazig Le Bay et les cinq professionnels du cinéma qu'elle a rencontrés. Rémi Giordano, scénariste, Colette Caisson, productrice, Frédéric Le Gall, repéreur, Laura Bucher, décoratrice et Sarah Turoche, monteuse, pour nous parler de comment est-ce qu'on devient professionnel du cinéma. Pour la plupart d'entre eux. On retrouvera aussi ces histoires de la Northern Soul, quatrième partie. Vous saurez tout ce qui subsiste de cette grandiose époque des nightclubs du nord de l'Angleterre dans les années 1960, 1970 et tout début 80. Et puis quel héritage ont pu laisser ces DJ et ces grands singles soul américains. On retrouvera aussi, et pour terminer, de Boulevard. Tout à l'heure, les morceaux de choix numéro 4 proposés par Romain Chaplin, qui a rencontré des mélomanes qui nous disent tout sur la chanson, le disque qui les a fait chavirer. Mais on commence dans un instant avec Rémi Giordano. Il est toujours scénariste et répond à cette question que lui pose Zoazig Le Bay : comment devient-on et comment reste-t-on scénariste ? Bonne émission.
Moi, j'ai toujours eu envie d'écrire. Enfin, vraiment, avant même de vouloir écrire, j'écrivais, je recopiais les phrases des livres que ma mère me lisait sans savoir ce que ça disait parce que je savais pas lire. Mais j'élaborais déjà des histoires et je me disais, ce que j'ai écrit, ça raconte ça, même si en fait c'était juste des mots ou c'était n'importe quoi. Donc j'avais toujours eu envie d'écrire. Et puis après, j'ai découvert le cinéma. C'est Batman, le défi, le premier film que j'ai vu au cinéma qui m'a complètement donné envie. Où je me suis dit, c'est fou quoi, ce qu'on peut faire. Et du coup, l'envie d'écrire s'est nourrie de ce goût pour le cinéma. Et en fait, j'ai découvert les métiers de scénario parce que, en fait, il y avait dans les DVD que j'achetais quand j'étais gamin, il y avait les making-of qui étaient plutôt bien faits, où on découvrait tous les métiers du cinéma. Et j'ai compris qu'un film, ça s'écrivait et je commençais à m'y intéresser. C'est là que j'ai décidé d'être scénariste. Et puis, au lycée, on me disait un peu qu'est-ce que tu vas faire, comment on devient scénariste finalement. Donc, il y avait les grandes écoles de cinéma, la FEMIS, Lumière, mais surtout la FEMIS en scénario, que j'ai malheureusement pas eu. J'ai pas eu le concours de la FEMIS. Après, j'ai très vite travaillé en développement. Le développement, c'est tout ce qui concerne le scénario en prod. Donc, j'ai lu beaucoup de scénarios, j'ai fait des fiches de lecture, j'ai fait des préconisations. On appelle du script doctoring, donc faire le docteur du scénario pour pas mal de projets. Chercher aussi des livres à adapter pour le cinéma et la télé. Tout en continuant à écrire. Et puis un jour je me suis dit il faut que tu te lances parce que sinon tu vas ne faire que lire des scénarios pendant toute ta vie. Et là j'ai eu la chance de faire de l'animation. Et en anime, on est très vite venu me chercher parce que j'écrivais pas trop mal de l'anime. Puis après, de fil en aiguille, c'est des rencontres, c'est des contacts. Je me suis retrouvé à faire de la quotidienne pour TF1, du Demain nous appartient, où j'écris des dialogués pour TF1. Et après, j'ai un agent maintenant. Donc c'est elle qui parfois me met en contact avec des producteurs. Parfois, c'est moi qui rencontre des producteurs. Sur les projets perso, c'est plutôt moi qui vais chercher, qui identifie des producteurs qui me plaisent et avec qui j'ai envie de travailler. Je leur envoie les projets et puis éventuellement ils me produisent. Puis après, parfois des producteurs me contactent plus pour la coécriture en fait, parce qu'ils ont entendu que j'avais bien travaillé ou ils ont vu des choses sur lesquelles j'ai bossé. Ils me contactent, je rencontre les réalisateurs, fais des castings de scénaristes. On est plusieurs scénaristes à rencontrer un réalisateur, comme les comédiens rencontrent les réalisateurs. Et on propose des pistes de réécriture pour les films. Et puis parfois on est pris, parfois on n'est pas pris. Et parfois on n'est pas pris et les gens continuent à bosser en nous ayant saigné pendant le rendez-vous de casting. Mais c'est le jeu. C'est peut-être pas un jeu très loyal, mais c'est un jeu. C'est le jeu.
Est-ce que vous avez encore peur de ne pas y arriver, d'être oublié, de ne plus être sollicité?
Tout le temps. c'est un boulot extrêmement précaire, enfin à tous les niveaux. Parce que le statut d'auteur, c'est vraiment le pire statut qui existe. Parce qu'on n'est pas intermittent quand on est auteur. Donc quand on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Et on n'est pas comptabilisé en heures. Donc, on gagne de l'argent quand on travaille. Enfin, quand c'est bien, quand on a de la chance. Et on est très mal payé. Donc c'est assez compliqué de... Il faut être sur... beaucoup de projets qui sont pas très bien payés mais qui demandent la même énergie, donc la partie la plus compliquée c'est celle liée à l'argent, hein. Enfin c'est le nerf de la guerre, mais comme on est les plus mal payés, c'est très compliqué. Donc en fait mes craintes elles se situent surtout de ce côté là de me dire est-ce que là comme je me consacre à mes projets personnels, si ça marche pas, le risque c'est que après j'ai plus, enfin on n'ait plus envie de bosser avec moi et que ben je consacrerai beaucoup de temps à un truc qui rémunère pas encore, qui m'énerve pas, donc ouais j'ai peur, mais après la peur c'est aussi une motivation quoi, c'est une énergie. Enfin moi j'y crois depuis que j'ai 18 ans, hein. Bon là j'en ai 38 mais j'y crois, donc je vais pas lâcher maintenant de toute façon, on verra bien, j'ai peur mais j'y crois.
Après Rémi Giordano qui nous disait comment il est devenu scénariste, c'est Colette Caisson qui, elle, nous parle des raisons qui l'ont fait devenir productrice.
J'ai commencé en étant assistante puis très vite coordinatrice générale d'un festival qui est le festival Premier Plan à Angers. Alors un festival c'est génial parce qu'on rencontre plein de gens, on fabrique aussi des programmes, on choisit des films et voilà, et puis c'est aussi un bain de rencontres évidemment. Ensuite j'ai travaillé sur un programme européen qui s'appelle Europa Cinéma qui fédère un réseau de salles de cinéma dans le monde entier, à l'époque en Europe mais après dans le monde entier. Donc pour moi ça a été très passionnant de travailler avec les exploitants parce que dans ce métier c'est vraiment les gens qui sont au contact du public tous les jours et il y a des exploitants absolument formidables. Et puis ensuite j'ai travaillé pendant une douzaine d'années dans comme responsable d'un fonds d'aide. Donc là, au contact des producteurs et à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers, à lire beaucoup de plans de financement et de devis de projets. Donc ça, c'est une sacrée école aussi, parce que se dire, je viens de lire de ce scénario, c'est quoi le devis du projet, comment le producteur pense le financer. Et puis, en tant que fonds d'aide, on discute avec les producteurs sur la faisabilité du film, sur comment il va s'élaborer, dans combien de temps on peut espérer qu'il soit en tournage dans la région, si je travaillais pour une région. Donc voilà, et puis après, cette envie, ce désir de production que j'avais quand j'avais 20 ans, 18-20 ans, hein, clairement, mais que je n'avais pas mis en œuvre à l'époque, et je pense que c'est bien que je ne l'ai pas mis en œuvre à l'époque, parce qu'il faut quand même un peu de maturité et un peu être solide pour porter des projets. Voilà, je me suis dit, c'est le moment, j'y vais, et puis voilà, je me suis lancée, mais sans, contrairement à beaucoup d'autres producteurs qui sont passés par la direction de production, ou l'assistana, ou la collaboration financière dans des sociétés de production, etc. Voilà, moi je viens des festivals et d'un fonds d'aide, ce qui est très atypique.
Cannes, pour vous, c'est une grande aventure ? Bien, vous savez déjà ce que vous allez y trouver.
Cannes, c'est toujours des surprises parce que, heureusement, c'est quand même un bain de cinéma. C'est toujours des découvertes, quoi, parce que comme c'est compliqué parfois d'aller aux séances, entre les rendez-vous, les séances, l'obtention d'étiquettes, etc., même pour les professionnels, parfois on va voir un film un peu hop, parce que ça se présente, et puis on prend une claque et on sort ravi d'une découverte. Voilà, donc ça, c'est toujours, évidemment, c'est aussi en voyant des films qu'on élabore notre désir, donc ça c'est très important. Et puis ce qui est fantastique, c'est que c'est quand même un endroit où des amoureux du cinéma du monde entier, il y a beaucoup de businessmen et women, mais ça n'empêche pas d'aimer, et puis il y a plein d'amoureux, donc voilà, c'est un peu une ville des amoureux du cinéma quand même. Il y a vraiment ce truc là chez quelqu'un comme Thierry Frémaux, c'est d'une force incroyable, c'est quelqu'un qui porte cet amour du cinéma de façon assez incroyable et qu'il partage bien d'ailleurs. Donc voilà, c'est toujours un peu une surprise. Après, il y a toujours des défis parce que comme c'est une petite ville, Cannes, où il y a tout d'un coup de 40 ou 50 000 personnes du monde entier qui arrivent, bon bah parfois se dire je veux rencontrer telle ou telle personne, c'est un défi effectivement, c'est compliqué, il faut se retrouver, il faut trouver la bonne heure, la disponibilité commune, mais voilà, c'est aussi ça. Et en même temps, il y a parfois des gens qu'on a prévu de rencontrer qu'on ne verra pas, et puis d'autres qu'on va rencontrer par hasard et qui seront des belles rencontres, donc c'est toujours des belles surprises.
Combien de projets en développement chez vous ? en ce moment ?
Je pense qu'en ce moment, je dirais, j'en ai 5 ou 6 ou 7. Voilà, c'est toujours un petit peu le cas parce que effectivement, il y a des projets, enfin, les projets s'élaborent avec la durée. Alors, il faut faire attention à ça parce qu'il y a aussi des auteurs qui s'essoufflent, qui perdent le désir, qui s'épuisent. Mais c'est vrai que c'est quand même la durée donne la possibilité du recul, de la relecture, d'avis qui viennent de commissions, d'avis qui viennent de personnes à qui on, auprès desquelles on prend des retours. Donc c'est toujours important. Faut pas, c'est un métier où il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et moi, je dis toujours que le temps qu'on perd entre guillemets en développement, parfois on le gagne après.
Dans Les Invisibles du cinéma, quatrième partie, c'était Colette Caisson, productrice. À suivre, Frédéric Legal, repéreur, qui nous dit sur quel film il va prochainement travailler et puis aussi qui nous parlera des changements qu'il a pu voir arriver dans le métier qu'il exerce depuis pas mal de temps maintenant.
C'est un film d'époque, déjà. C'est un film qui se passe à la fin des années 70. Vous imaginez pas comment ça a changé, notamment tout ce qui est mobilier urbain, éclairage, signalétique, tout ça, c'est plus du tout pareil. Les films d'époque, c'est vraiment un cas particulier dans les repérages, parce que là, il faut vraiment prendre en compte tous les environnements, quoi. Parce que le moindre anachronisme, on est obligé de le masquer, alors soit de le masquer numériquement, soit de l'enlever au moment du tournage ou de le camoufler. Donc plus on trouve des endroits qui sont préservés, et qui n'ont pas été rénovés aussi bien en intérieur chez des particuliers que dans la que dehors, hein, dans la rue. Mais ouais, vous imaginez pas le nombre de choses qui ont. Enfin, ça n'existe presque plus. Même des années 80, en fait, vraiment des choses purement, intégralement années 80. Il y en a plus beaucoup. Ça a été rénové au moins deux fois, quoi, en fait, depuis. Donc c'est pas facile à trouver. Ouais, les films d'époque, c'est compliqué. C'est un vrai challenge. Puis en plus, vous arrivez dans des endroits souvent qui sont quand même incroyables, quoi. Là, je cherche notamment une espèce d'hospice. Parce qu'en fait, le film, c'est un biopic sur la vie de Maria Schneider. Il y a une séquence où en fait, elle va dans une espèce de clinique, de maison de repos, mais au début des années 80. Et dans le scénario, c'est décrit comme quelque chose de très monacal. Il y a un extérieur qui pourrait être un château ou un manoir.
Un monastère.
Moi, je suis allé voir trois monastères, trois monastères et deux abbayes. Et ça pourrait être ça. Le décor principal dans ce décor-là, en fait, c'est surtout en fait un couloir et sa chambre. Et ça, c'est vraiment, dans le scénar, c'est une espèce de cellule de moine, mais un truc très lumineux. Donc faut soit un cloître ou un couloir vitré, mais dans son jus, quoi. Un truc qui des années 70, donc pas les interrupteurs, les poignées de porte, les huisseries. Il faut que ça soit en bois ou pas en plastique ou en ferraille, quoi. Ça coupe pas les rues. Moi, quand j'ai commencé, on faisait des photos en argentique. Donc c'était ce qui était bien, c'est qu'à 18h vous avez fini la journée parce que vous déposiez la pellicule chez le photographe. Aujourd'hui on est en. Et puis vous faisiez 5 photos, hein, vous réfléchissiez bien avant de faire les 5 photos parce que ça se paye. Et puis après vous le mettiez sur un canson que vous envoyiez à Paris en chronopost. Donc le réalisateur, il avait les photos une semaine, au moins une semaine ouvrée après que vous les ayez pris, quoi. Aujourd'hui, vous envoyez tous les soirs un WeTransfer ou une Dropbox de 50-60 photos par décor. Tous les axes, toutes les coutures, quoi. Donc c'est là où le métier a changé. C'est que je continue à progresser, à savoir comment prendre les photos, parce que pour rendre un espace compréhensible, c'est parfois très compliqué. Ça dépend vraiment des bâtiments, mais du coup maintenant je fais vraiment très attention à l'ordre. Maintenant je suis assez franc avec les propriétaires, en fait je leur dis, en fait c'est plus simple si vous me laissez tout seul, alors que je viens souvent de débarquer 5 minutes avant en faisant des dingues à la porte, hein. Mais parce que en fait je fais beaucoup de panoramiques, je quadrille, je fais en sorte que chaque photo, la photo précédente, il y a un élément en commun avec la suivante pour qu'on puisse lire la circulation et les espaces et comment on passe d'une pièce à l'autre dans une maison ou dans un appartement. Et quand vous avez un propriétaire qui vous fait la visite guidée comme lui l'imagine ou s'il a un truc qui bouge sur le feu. Enfin voilà, c'est, et moi je passe énormément de temps à re-ranger les photos derrière en fait, hein, pour les mettre dans un ordre compréhensible, à les renommer. Enfin voilà, c'est très 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 long aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail après en fait, le soir quand je rentre, j'ai 2-3 heures d'ordinateur quoi.
On peut penser que tous les logiciels là, qui permettent de modifier les choses, ça pourrait faciliter les choses. Là, non, on peut cacher, reconstruire. Ça se fait ou ça se fait pas encore vraiment ?
Ah, si, si, ouais, bah, ça se fait de plus en plus. Moi, j'ai pas encore fait de tournage où. Ce qui se fait de plus en plus là où les comédiens sont en studio mais devant un vrai décor qui est projeté en fait. C'est-à-dire que ça viendra peut-être qu'un jour on m'appellera pour aller faire des photos justement pour numériser un décor existant mais qui n'est pas praticable dans la vraie vie, où on ne peut pas recevoir 50 personnes, mais par contre qu'on le numériser pour pouvoir le projeter sur un fond vert en studio et que les comédiens jouent devant. Ça se fait de plus en plus. Hein. Il y a des grands films qui sont faits, enfin Avatar notamment, pour ne pas le citer, il a été fait intégralement comme ça. Hein. Le cinéma, c'est l'art du mensonge, hein. C'est l'art de la tricherie. Hein. Le nombre de fois où dans un film, justement, vous voyez un comédien qui se gare, arrive devant une belle maison, ouvre une porte, puis l'intérieur, en fait, il est fait un mois plus tard, à 300 km de distance, et voir l'intérieur de la maison est fait de 3, 4, 5 sous-décors, faits dans des endroits complètement différents, la chambre à un endroit, la salle de bain à un autre, le salon à un autre. C'est moins pratique, hein, quand même, mais il y a des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Enfin, typiquement, notamment, les salles de bain, c'est le décor généralement qu'on triche ailleurs, parce que rares sont les salles de bain qui peuvent accueillir 25 personnes quoi.
Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aurait envie de faire votre métier ? Il faut une formation ? Il faut pas de formation ? Il faut...
À ma connaissance, il n'y a même il y a pas de formation qui existe, enfin je crois pas. Je pense pas qu'il y ait d'école ou de formation existante sur des repérages. Non, je pense qu'il y a autant de repéreurs que de façons de repérer et de manières de faire. Et par contre, oui, il y a du boulot, ça il y en a plein en ce moment. Et c'est le plus beau métier du monde, donc faut y aller, hein. C'est un super taf. Hein.
Après Frédéric Le Gall, repéreur, eh bien c'est au tour de Laura Bucher, décoratrice, de nous dire sur quel prochain film elle va travailler. Et puis elle nous parlera des qualités qu'il faut, selon elle, pour être décoratrice de cinéma.
C'est un premier long métrage aussi, d'un réalisateur qui s'appelle Philippe Paulet-Villard, qui a réalisé un court métrage il y a, je pense, une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, qui a reçu un César et un Oscar pour ce court-métrage-là. On va tourner à Boulogne-sur-Mer. Et c'est une nouvelle équipe d'écho avec qui j'ai fait un film. Et je pense que ça va être chouette. Le scénario est sympa. Non, ça peut être un beau film. Il y a un petit mystère, un petit suspense. Je n'ai pas rencontré encore Philippe. Donc on va voir, ça ne saurait tarder.
Est-ce que vous avez déjà tourné à l'étranger ?
Et non, pas encore. Je réfléchis parce qu'il y a des films sur lesquels j'ai travaillé qui ont eu des parties qui se sont tournées à l'étranger. Mais en général, on n'emmène pas toute l'équipe. C'est une équipe réduite qui part à l'étranger. Donc non, je n'ai pas travaillé à l'étranger encore. Mais je pense notamment à Sibyl, qui est un film de Justine Triet. On a tourné une partie en Italie. Donc là, on avait tout préparé en amont pour partir en Italie. On avait des énormes caisses d'accessoires et de tissus, de rideaux, de tapis qu'on a envoyés en Italie avec une ensemblière qui est partie là-bas avec un troisième assistant. Et ils ont géré la partie italienne. Mais nous, on est restés à Paris puisqu'après, ils revenaient à Paris pour retourner à Paris. Donc on avait des choses à préparer aussi. Et là, je pense à un film dont j'ai très envie de parler, qui est super, qui s'appelle Atlantique, de Mati Diop, qui est une réalisatrice franco-sénégalaise. Et ce film est vraiment super. Moi, j'ai fait que la partie parisienne. Alors, je dis ça, mais on n'a pas du tout tourné à Paris, mais j'ai fait toute une préparation avec le chef décorateur, qui après, lui, est parti au Sénégal, a transmis à un chef décorateur là-bas, et puis est reparti aussi. Donc en fait, le film, on l'a préparé, mais il n'était pas vraiment entre nos mains. Je ne savais pas ce que ça allait donner, parce que je n'ai pas du tout été sur le tournage, et j'ai découvert à la projection d'équipe, et c'était vraiment... j'ai revu des décors pour lesquels j'avais fait des maquettes, ou pour lesquels j'avais fait des dessins, et c'était super de travailler avec elle, et avec son équipe. elle a eu plusieurs chefs opérateurs qui étaient tous très intéressants. C'est important aussi de travailler avec eux pour nous, parce que notre décor peut être très beau ou très juste si le chef opérateur n'est pas avec nous, ou si on ne travaille pas avec lui, il sera mal éclairé et donc ça gâchera tout. Donc on travaille aussi main dans la main avec d'autres chefs d'équipe.
Un travail transversal, donc vous travaillez avec toutes les équipes de cinéma.
Surtout moi, j'allais dire, parce que en tant que première assistante déco, moi je fais le lien entre la décoration et la production pour les questions économiques, et la régie pour les questions logistiques. Donc moi j'essaye de faire le pivot entre plusieurs départements. Après, le chef déco est aussi en lien avec le chef opérateur, avec l'ingé son. Il faut qu'on essaye de faciliter au plus le travail de l'ingé son. On n'y pense pas toujours, mais c'est quand même... on ne va pas lui mettre 150 lampes suspendues, sinon son perchemin ne va pas pouvoir, naviguer dans le décor. Il y a plein de petits détails comme ça, mais qui facilitent le travail les uns des autres. Et c'est sympa quand on y pense, quand chacun pense à d'autres départements.
À votre avis, quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour être décoratrice au cinéma ?
À mon avis, il faut être curieux. C'est la première qualité qui me vient. Et je pense que si on n'a pas de curiosité pour tout, puisqu'à chaque fois, on doit chercher l'inspiration. Dans tous les cas, à chaque fois qu'on reçoit un scénario, on doit s'imprégner du scénario, des personnages, de ce qu'ils font dans la vie, de qui ils sont. Je pense qu'il faut... il faut vraiment avoir cette curiosité, cette avidité de s'imprégner des personnages et de l'esprit du réalisateur, de la réalisatrice. La curiosité, c'est une chose très importante. Après, je pense qu'il faut être assez débrouillard, assez dégourdi, vouloir faire des choses, proposer des choses, même si on se trompe. Comme on est sans cesse sollicité par des nouvelles choses, il faut mettre la main à la pâte et essayer. Et si on se trompe, c'est pas grave, on recommence, on a le temps. On a parfois un peu de temps pour recommencer. Donc faut essayer, il faut tester. Et puis il faut être en forme, il faut avoir de l'humour, pas trop d'ego, je pense. Sur un tournage, il peut y avoir beaucoup d'ego, ouais. Il faut garder son ego pour soi, pour sa vie perso. Je pense que dans le travail, il ne faut pas trop en avoir. Il faut aussi être assez ouvert d'esprit, pouvoir dialoguer facilement avec les gens. Mais je pense que la curiosité, c'est c'est de ça que découle tout le reste.
C'était Laura Bucher qui répondait aux questions de Sozy Globa. Et à suivre, pour terminer ce quatrième épisode des Invisibles du cinéma, Sarah Turoche, monteuse, qui nous parle de ce qui l'intéresse le plus entre le montage de fiction, de documentaire pour le cinéma ou bien la télévision.
Tout à son intérêt, c'est pas tout à fait le même montage. C'est-à-dire que en fiction, évidemment, on part avec un scénario. En fiction, il faut aimer les acteurs. Voilà. Le plaisir, c'est l'acteur. C'est le jeu qui propose, les différences de jeu. Et on est vraiment dans l'histoire. On cherche des fois sur des choses de détail. Enfin, c'est presque plus de la broderie. En documentaire, ce qui est incroyable, c'est qu'au départ, il y a une matière et il n'y a pas forcément d'histoire. Il y a souvent une idée. Et là, il y a tout à construire. Donc, ça demande beaucoup plus de réflexion et de construction. Après, moi, des fois, ce que je reproche au documentaire, mais c'est pareil, c'est un peu une généralité, c'est que parfois, l'image est moins belle, elle est moins travaillée, mais parce que c'est aussi des fois du cinéma du réel,
oui.
Et que c'est soumis à d'autres contraintes. Et que moi, qui aime beaucoup la fiction, des fois, je suis frustrée, je me dis « Ah, mais ce plan-là, il aurait pu être tellement magnifique s'il avait été refait 10 fois. » Mais c'est le jeu du documentaire, voilà, où là, il n'y a qu'une prise. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est génial, parce que tout est unique. Après, entre le long-métrage et le téléfilm, c'est vraiment des différences souvent de budget, de temps de travail, mais pour moi, le travail est le même, en fait.
Quel est alors le film, le téléfilm, le documentaire que vous avez le plus aimé, si c'est possible ? Est-ce que vous avez un souvenir particulier en vous disant « Oh, ça, c'était bien ?»
C'est pas tellement possible parce qu'en fait, je dirais que sur 80% des films que j'ai montés, je les ai vraiment aimés. Ce qui est toujours émouvant, c'est quand un film est projeté en salle et qu'on voit que ça marche. C'est-à-dire quand on monte une comédie et que tout d'un coup, il y a enfin la première projection publique et que la salle rit et qu'elle réagit au moment où on espérait qu'elle le fasse, on se dit que ça y est, on a gagné. Mais ça marche aussi pour un documentaire où quand à la fin les gens sont émus ou disent j'ai appris des choses incroyables ou je pensais pas voir ça, c'est un peu l'épreuve de la projection publique. Non, je pourrais pas citer un film particulier. Moi j'ai travaillé sur des documentaires d'archives et c'était passionnant de rentrer dans le monde de l'archive. J'ai fait des documentaires dits cinéma du réel qui sont aussi en général des expériences assez épuisantes mais très riche et le résultat est comme souvent assez épatant. J'ai fait des fictions où j'ai adoré des acteurs, d'autres c'était plutôt l'histoire qui m'enthousiasmait. Il n'y a pas vraiment de règles, il y a des souvenirs de travail, de collaboration génial, d'autres qui parfois le sont moins, mais où le film est formidable. Enfin, c'est un peu difficile de faire le tri.
Et pour qui a envie d'être monteur ou monteuse, est-ce que ça peut s'apprendre sur le tas ?
C'est vraiment un métier qui peut s'apprendre sur le tas. Je pense que la première chose pour quelqu'un qui voudrait être monteur, c'est de se poser la question de comment il est comme spectateur, de est-ce qu'il a envie de travailler pour un réalisateur et pour une production, et après d'observer. Je pense que, alors ça c'est une difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a les assistants qui travaillent avec nous, les productions ont beaucoup réduit leur temps de présence sur les films, et ce qui est évidemment une très grosse erreur, puisqu'en termes de passation de savoir, on a beaucoup de mal à faire ce travail-là. Moi, j'ai énormément appris parce que j'ai été assistante sur des films où on était là sur la longueur pour découvrir toutes les étapes de montage, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, pour voir comment travaillait le monteur, où j'avais le temps de me poser la question de me dire, moi, comment je montrais la séquence, et puis de le voir faire complètement autrement et de me dire, ah, mais alors, en fait, pourquoi il a fait ça comme ça ? En fait, il y a un apprentissage vraiment par l'observation qui est essentiel. L'avantage d'une école, c'est qu'elle permet d'acquérir de manière rapide tout ce qui est technique.
La technique, oui.
Et c'est quand même important de l'avoir, de la maîtriser pour ne pas être embêté après. Des écoles comme la Fémis ou comme la Cinéfabrique permettent de monter beaucoup de petits courts-métrages et donc quand même de faire sa propre expérience et puis par ailleurs de rencontrer des gens du même âge qui feront des films, potentiellement de créer des collaborations. Mais je pense que quelqu'un qui se lancerait sur le tas peut tout à fait devenir monteur, évidemment. Les qualités requises n'ont pas besoin d'une validation de diplôme.
C'était le quatrième et dernier épisode des Invisibles du cinéma à l'instant dans Double Vanille. Vous entendiez Sarah Turoche, monteuse, interrogée tout comme Laura Bucher, décoratrice, Frédéric Le Gall, repéreur, Colette Caisson, productrice et tout à l'heure Rémi Giordano, scénariste, interrogé par Soisig Le Bay qui a pu les rencontrer, donc ces professionnels du cinéma dont les noms malheureusement restent bien souvent invisibles au générique pour le grand public. Merci à toutes et à tous d'avoir bien voulu répondre aux questions de Soisig Le Bay. La musique d'illustration de ce dernier épisode des Invisibles du cinéma, c'était Maria sur la BO du film Trafic de Jacques Tati, un morceau composé par Charles Dumont. Nous poursuivons avec à présent ce dernier épisode des histoires de la Northern Soul, où on voit que ces DJ qui tous les week-ends dans des boîtes de nuit du nord de l'Angleterre entre les années 1960 et 1970 qui passaient des pépites obscures et qui n'étaient pas devenues des tubes à l'époque où elles étaient sorties, du côté des années 1966-70 peut-être, pour des labels de Chicago, de Détroit. Alors certes, il y a une provenance géographique américaine, pas forcément le nord des États-Unis d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait des micro-labels un peu partout évidemment, à qui essayaient de marcher dans les pas de Motown. La plupart n'avaient aucun succès et ça permettait donc à ces DJ de s'approvisionner en morceaux complètement inconnus mais qui allaient casser le parquet parfois d'endroits comme le Wigan Casino. Et bien ces musiciens, ces DJ ont laissé quelques traces dans l'imaginaire collectif de la Grande-Bretagne surtout, et on va pouvoir en avoir la preuve avec dans un instant un morceau Northern Soul composé par The Stairs. Ça a été enregistré en 1993, ce titre When She Walks Down My Street. Ça ne figurera pas sur leur premier album Mexican Rhythm and Blues, mais sur une compile de démos qui est un peu ce qu'on pourrait appeler leur troisième album, l'album Who Is This, sorti en 2008, puis ça a été réédité il n'y a pas très longtemps en format triple CD avec le premier album, le deuxième album hypothétique, et puis donc son troisième album pour ce groupe de Liverpool, The Stairs, donc pour nous montrer qu'en 1993, on continuait à avoir une fixation en Angleterre sur la soul made in USA dans les années 1960. le groupe allemand The Everettes à l'instant en 2023 sur leur deuxième album, c'était le titre Number 9. On voit que la Northern Soul continue de passionner à travers le monde. Vous l'avez trouvé sur le label Waterfall, cet album des Everettes. Auparavant, eh bien, les Feux Spadassins de Rennes avec leur excellent morceau Can't Get You Out of My Head, qui aurait pu être un classique des Dance Floor Northern Soul dans les années 70, c'est sûr. C'était sorti en format 45 tours, évidemment, sur le label Croc Macadam. Et tout à l'heure, c'était les Stairs avec un morceau rare. C'était une démo enregistrée en 1993 à retrouver, notamment sur une compile Mexican Rhythm and Blues dans sa version Deluxe avec 3 CD remplis jusqu'à la gueule de ces brûlots garage punk et parfois un peu soul, Northern Soul, chanté par monsieur Edgar Jones, qu'on retrouvera un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va aux États-Unis avec les Sextones. C'est un de leurs derniers singles avant l'album qui va sortir en septembre pour le label Record Kicks. C'est le titre Cowboys to Girls.
Baby, situation has left us weak. There really are no words left to speak. All of the love that we used to share is broken pieces now everywhere. Can't you see? 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 Oh, babe, oh, this is torture. Oh, when's it gonna stop? Oh, this is torture. Where's the pen gonna drop? Oh, this is torture. Oh, when's it gonna stop? Oh, this is torture. Where's the pen gonna drop? I said, when's it gonna stop? When's it gonna stop? When's it gonna stop? When's it gonna stop? Hey, hey. Misinformation and tattletales, another veil of reality, it has been placed between you and me. But I don't wanna be left alone to face eternity on my own. Can't you see? 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 Oh, babe, this is torture. Oh, when's it gonna stop? Oh, this is torture. Where's the pen gonna drop? Oh, this is torture. Oh, when's it gonna stop? Oh, this is torture. Where's the pen gonna drop? Oh, this is torture. Oh, when's it gonna stop? Oh, this is torture. Where's the pen gonna drop? Oh, this is torture. Oh, when's it gonna stop? Oh, this is torture. Where's the pen gonna drop? I said, when's it gonna stop? When's it gonna stop? When's it gonna stop? When's it gonna stop?
Edgar Jones, je l'annonçais tout à l'heure, c'était le chanteur des Stairs dans les années début 1990 à Liverpool. Il a voulu avoir une carrière un petit peu plus crooner, jazz, dans les années début 2000. Ça n'a pas forcément marché. Je ne sais pas si ça va mieux marcher là sur sa troisième partie de carrière. Mais en tout cas, voilà, il se réinvente en chanteur soul, voire northern soul, sur un album Reflections of a Soul Dimension, qui est sorti il y a quelques mois sur le label tout récent Stereo. Et là, avec ce morceau Torture, eh bien, il avait tout bon, hein, avec cette superbe ligne de basse, cette belle façon de chanter, et des violons, les Ready Maids tout à l'heure, c'est la suite des Swadassa, on peut dire, c'était sur leur premier album en 2018 avec le morceau Sophia Antipolis, et puis on avait commencé cette série de trois titres avec les Sextones tout à l'heure. On va terminer ces histoires de la Northern Soul avec un des morceaux qui a été utilisé dans un instant pour terminer quelques-unes des soirées qui avaient lieu au Wigan Casino entre 1973 et 1981. Et oui, il y avait les 3 before 8, 3 chansons avant 8 heures, parce que les Northern Soul All Nighters, ça durait toute la nuit, et on entendait trois titres pour terminer chaque session. Le morceau Time Will Pass You By de Toby Legend, qu'on avait entendu dans la première de ces quatre histoires de la Northern Soul. Le morceau Long After Tonight Is All Over de Jimmy Radcliffe, et donc ce I'm On My Way par Dean Parrish. Sachez quand même que lors de la toute dernière soirée, le 6 décembre 1981, eh bien, le morceau qui avait été choisi complètement au hasard, hein, pour terminer ces belles années 8 ans passées à faire danser les foules, et c'était le morceau Do I Love You Indeed I Do de Frank Wilson. Mais ça, vous le connaissez, puisque je vous l'ai proposé dans la troisième de ces histoires de la Northern Soul. Vous retrouvez bien sûr pour ces 50 ans du Weekend Casino pas mal de célébrations cette année autour de la Northern Soul en Angleterre, puis partout dans le monde, hein, puisqu'il est possible de trouver des soirées Northern Soul à Tokyo aussi bien qu'à Washington, à Caen Arène, J'espère que ça arrivera bientôt. En tout cas, en Angleterre, il y a encore de l'espoir. Ça ne sera jamais terminé, la Northern Soul. Les gens gardent la foi dans ces soirées-là. La preuve avec ce qui s'est passé le 15 juillet dernier au Royal Albert Hall, vous auriez pu y danser pendant un bon moment sur des classiques de la Northern Soul, aussi bien The Night de Frankie Valli and the Four Seasons, repris à Rennes par les punks de Foo Fighters, ou bien Tainted Love de Gloria Jones. Les proms, c'est cette tradition hein, britannique évidemment, qui propose 8 semaines durant des concerts pendant la saison estivale qui se passe au Royal Albert Hall à South Kensington. Et bien là, le 15 juillet dernier, c'était une spéciale Northern Soul où les 5544 spectateurs, je les ai comptés, non, c'est le nombre de places que peut contenir le Royal Albert Hall, mais il était quand même bien bondé, et bien se sont tous époumonés et ont un petit peu quitté leur siège pour danser sur des morceaux tels que, eh bien oui, tels que le fameux Tainted Love de Gloria Jones, court extrait de la toute fin de cette BBC Prom numéro 2 spécial Northern Soul. Je crois que ça va être rediffusé sur la BBC en août et j'aurais bien envie de le voir ce moment-là. En tout cas, vous allez pouvoir imaginer simplement à quoi ça ressemble. La vidéo se trouve sur YouTube et est assez excitante et fait un peu chaud au cœur quand on est fan de ce genre-là. Et puis juste après, Dean Parrish, I'm on my way. C'est mon cas aussi. Je vais laisser la place dans quelques minutes à Ronan pour ses morceaux de choix numéro 4. Vous le savez, il a rencontré des mélomanes qui nous disent tout sur la chanson, le disque qui les a fait chavirer tout à l'heure. Pierre dira tout sur Knocking on Heaven's Door, reprise de Bob Dylan par Television.
I'm on my way. morceau de
bravoure,
hacher le morceau, recoller les morceaux,
manger le morceau,
emporter
le morceau,
morceau choisi, morceau de choix.
Alors, le morceau choisi s'intitule, avec mon superbe anglais, Knocking on Heaven's Door, par le groupe Television. C'est une reprise de Bob Dylan. Et c'est un live qui a été enregistré en 1978. Un article qui ramène à mon début d'année étudiante à Rennes, un article des Inrecuptibles. Ça devait être le numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 des Inrecuptibles. Je me rappelle plus la couverture, je crois que c'était Lloyd Cole, je crois, The Commotion, donc un vieux groupe déjà. Et voilà, j'ai flashé sur la revue, et dans la revue, il y avait une chronique qui parlait de cet album The Blow Up de Television, et alors que je connaissais pas le groupe. Je crois que l'écriture, la critique de l'article de l'album m'avait plu, et je suis allé acheter le vinyle, et je suis tombé sur ce morceau. Je me suis rendu compte que je le connaissais indirectement, puisque c'est donc une reprise de Bob Dylan. Et cette reprise, la chanson originale de Bob Dylan, elle paraît sur l'album Pat Garrett et Billy the Kid. Et là, on va revenir à ma grande passion, c'est le western. C'est pas que j'ai jamais voulu être un cow-boy, mais j'adore les westerns. Et j'adore particulièrement ce western de Sam Peckinpah. Et dans lequel, notamment, Bob Dylan joue. Un rôle d'ailleurs assez important, c'est pas un figurant, il a un rôle assez important. Et c'est donc lui qui a fait aussi la version originale, la bande originale du film. Donc Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah. Ça raconte l'histoire d'un shérif qui ne veut plus porter son étoile, hein. Je crois que c'est l'introduction de la chanson qui commence ainsi. J'ai réussi à faire le lien entre cette chanson que finalement je connaissais et puis ce groupe Television qui fait cette reprise. Alors c'est une chanson qui a donné lieu à plusieurs reprises, notamment une de Guns N' Roses, mais qui est beaucoup moins intéressante et beaucoup moins belle, je trouve, que celle-ci. Alors le live, je pense que les puristes diront que le son n'est pas bon, que la batterie est beaucoup trop en avant, que la voix est pas assez forte, mais je trouve que Tom Verlaine, il a une voix magnifique, et que l'ensemble marche, je trouve, formidablement bien. C'est un morceau qui me fait de l'effet.
Et c'est avec ces morceaux de choix de Ronan Chaplin que se termine De Boule Vanille pour moi aujourd'hui. On se retrouve tout l'été grâce à tous les animateurs animatrices de Canal B qui vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 17h, rediffusion du mardi au samedi matin à 8h, et bien sûr les playlists et réécoutes, c'est sur canalb.fr. Je vous souhaite un très bel été, bien sûr, sur Canal B ou ailleurs. Nous, on se retrouvera le 4 septembre pour la rentrée de l'émission Crème de la Crème. À bientôt sur Canal B ou ailleurs. Ciao !